Amen. Bonjour à tous. Bonjour aux visiteurs, aux visiteuses. Bonjour à ceux qui viennent depuis des années. Alors bonjour, c'est un bonjour. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen. D'une part parce que on est tous ensemble, on est en famille. Et d'autre part parce que Dieu est avec nous. Et il n'y a rien de mieux que Dieu soit avec nous. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors RP a annoncé, du coup, le thème, c'est « Dieu peut-il m'abandonner ?» Juste une précision, c'était pas mon tour de prêcher. C'était pas mon tour. Et à un moment, pour moi, c'était prévu au mois de mars, et lors d'une lecture personnelle, un matin, je partage quelque chose au pasteur et je leur dis voilà, ça et ça. Et Michel qui dit t'as le vélo, pédale. Je dis ok, d'accord. C'est l'expression de Michel que j'aime bien d'ailleurs. J'ai le vélo, je pédale. Oui, j'ai le vélo. Donc, Dieu peut-il m'abandonner ? Une bonne question. Et en fait, j'ai découvert, au travers du roi Ézéchias, que nous allons regarder maintenant, en fait, le roi Ézéchias. Ézéchias, qui veut dire « force de l'Éternel ». Et donc, il était roi de Juda. Et on va juste faire un petit retour en arrière. On ne va pas revenir à la création du monde, vous inquiétez pas. Mais juste une petite précision, c'est que avant, le peuple d'Israël n'avait pas de roi. Il était guidé par des chefs religieux. Et à un moment, le peuple d'Israël a voulu un roi. Et c'est sous le temps de Samuel, quand Samuel était là. Donc dans 1 Samuel 8, 7 à 9, l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. » Car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Afin que je ne règne plus sur eux, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Et du coup, Dieu a accordé au peuple ce qu'il voulait, un roi. Et on va voir, Alors, je l'ai refait. Donc, juste pour que vous arriviez à comprendre que donc Dieu a accordé un roi, c'était Saül. Après, il y a eu David. Après, il y a eu Salomon. Et après Salomon, le peuple s'est divisé en deux. D'un côté, Jéroboam et de l'autre côté, Roboam. Donc, Jéroboam avec Israël et Roboam avec Juda. Et vous voyez toute la succession des rois. Je ne les ai pas tous mis, ça ne rentrait pas tout. Mais j'ai quand même mis Ézéchias parce que c'est de lui qu'on va parler ce matin. Et il y a eu cette division, voilà. Donc juste pour vous mémoriser aussi visuellement, Israël, donc là c'était sous le règne de Jéroboam, et Juda en bas, où là c'était Roboam. Et à la suite de Roboam, il y a eu plein de rois, et donc le 14e de ces rois, c'était Ézéchias. Et 2 rois 18 nous apprend qu'il était le fils d'Akaz, qu'il monte sur le trône à l'âge de 25 ans et qu'il a régné pendant 29 ans. Et durant son règne, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu, comme avait fait David. Ce qui est important de noter aussi, c'est que son père ne faisait pas ce qui était bon aux yeux de Dieu. Et ses fils, après, n'ont pas fait ce qui était bon aux yeux de Dieu, mais lui a fait ce qui était bon aux yeux de Dieu. Et dans 2 Chroniques 29, il est écrit que dès le début de son règne, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il y avait des pratiques païennes qui étaient rentrées par le passé dans le pays et Ézéchias rétablit le culte à l'Éternel. Il demanda aux Lévites de se sanctifier et de sanctifier la maison de l'Éternel. Il renouvelle l'alliance avec Dieu pour que la colère que Dieu avait contre le peuple se détourne de lui. Il fait détruire les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Il est tombé malade, mais Dieu l'a guéri. Ça nous est précisé dans 2 Rois 20, et même Dieu lui a accordé 15 ans de vie en plus. Il fit renforcer les fortifications de Jérusalem et creuser des tunnels pour amener l'eau dans la ville. Dans 2 Rois 18, 5 à 7, il est marqué « Il mit sa confiance en l'Éternel ». le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui et qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Après cette description, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je trouve que c'est un bon roi quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Si aux élections on vous présente un roi comme ça, ça va, on vote pour lui. Ouais. Mais la question est mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu abandonne Ézéchias? Quand on voit ce qu'Ézéchias a pu accomplir grâce à Dieu, la notoriété s'est accrue. Et 2 Chroniques 32-25 nous dit « Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. » Ézéchias a beaucoup engrangé de richesses. Il a eu beaucoup de succès, et comme on dit, ça lui a monté à la tête. Son cœur s'éleva. Dans une autre version, il est écrit que son cœur devint orgueilleux. Il n'a pas été reconnaissant. Il n'a pas rendu gloire à Dieu pour ce que Dieu lui avait permis de vivre et pour ce que Dieu lui avait permis d'acquérir. Et Jacques 4, 6 nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'orgueil. L'orgueil, c'est une haute estime de soi. C'est le fait de compter sur ses propres capacités, sur ses propres richesses par moment. On croit que parce qu'on a beaucoup d'argent, alors on est tranquille, c'est l'argent qui nous assure la sécurité. Ou c'est peut-être autre chose, une autre personne. C'est aussi de prendre les autres de haut et croire que nos capacités nous rendent meilleurs. Que tout vient grâce à nous-mêmes, au moi. Et dans la situation d'Ézéchias, que voit-on? Dans un autre passage de 2 Rois, 12 à 13. En ce même temps, là où il a eu des richesses, où il n'a pas été reconnaissant de ce que Dieu lui a accordé, il y a des ambassadeurs de Babylone qui sont venus, qui ont été envoyés par le roi de Babylone pour apporter un présent à Ézéchias, car ils avaient appris la maladie d'Ézéchias. Et Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, tout son argent. Tous les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Je pense que là, les ambassadeurs de Babylone sont venus pour savoir d'où leur venait ce succès et comment ils pourraient détruire le peuple de Juda. Mais Ézéchias n'a pas dit « c'est grâce à Dieu », non. Ézéchias a dit « regardez mes richesses, regardez tout ce que je possède ». Moi, je me dis que c'est dangereux, parce qu'en fait, si j'ai un lingot d'or chez moi, je ne vais pas faire porte ouverte chez moi et leur dire « venez voir mon lingot d'or, venez voir toutes mes richesses ». Vous êtes d'accord? Non? Ou sinon, peut-être que je le mettrai à la banque, ce sera peut-être plus sûr, et encore. Ézéchias fait une visite guidée, mais vraiment guidée dans les moindres recoins, sans retenue. Et Ésaïe, le prophète, vient demander à Ézéchias, et lui dit « mais d'où viennent ces personnes et qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles sont venues voir ?» Ézéchias répond naturellement « ils arrivent de Babylone. » Et je leur ai fait visiter ma maison et il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Et 2 Chroniques 32-31 nous dit cependant, lorsque justement il y a eu cette visite ses envoyés, ses messagers auprès d'Ézéchias pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays. Dieu l'abandonna. Dieu l'abandonna. J'en dis « what ?» Je ne parle pas trop anglais, mais ce mot, au moins, j'arrive à le dire. J'ai relu, et c'est à ce moment-là que, du coup, j'ai partagé au pasteur, j'ai dit « mais il est marqué « Dieu l'abandonna ». Dieu l'a quoi ? Dieu a abandonné Ézéchias. Alors, on peut avoir deux réactions à la lecture de ce passage. La première, c'est de dire, et souvent, quand j'entends dans parfois des entretiens que je fais ou quand je discute avec certains jeunes et tout ça, « Non, mais Dieu, Anne, il m'a abandonné. » Et puis là, tu vois, c'est écrit. Dieu l'abandonna, Ézéchias, donc il peut le faire pour moi, quoi. On peut avoir cette réaction. Ou sinon, on peut avoir l'autre réaction et dire, mais ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas nous abandonner. On va clarifier la situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu est omniprésent ? Ça veut dire qu'il est partout. Vous êtes d'accord ? Ok. On est tous d'accord. Matthieu 28, 20 dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du... » Donc ça veut dire qu'il est là. D'accord. Dieu est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et chose qui est bien, c'est qu'il n'est pas un homme pour mentir. D'accord. Donc la conclusion, c'est Dieu n'abandonne pas. Mais il y a un problème quand même, la Bible ne se contredit pas. Hébreux 13, 5 nous dit « Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Qu'est-ce qui se passe ? Alors volontairement, je vous ai fait lire que la première partie du verset. Mais la suite dit « Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. » Dans certaines versions, dans la parole de vie, il est marqué « Dieu ne l'aida pas ». À ce moment précis, Dieu ne l'aida pas. Dans la version française courante, il est marqué « Dieu le laissa agir par lui-même ». Là, pour Ézéchias, l'orgueil est entré dans son cœur. Quand il a montré ses richesses, il y a dit « Il n'a rien de mes trésors, moi, je, mes, que je leur ai fait voir ». Je leur ai tout dévoilé, ce que j'ai gagné. Tous mes trésors, tout mon or. Moi, mes. Il fait l'éloge de ses succès, encore à la place de rendre gloire à Dieu. Il aurait pu dire, c'est grâce à Dieu que j'ai eu. Aux ambassadeurs, quand ils sont venus, vous dire, oui, c'est vrai, j'ai toutes ces richesses, mais c'est grâce à Dieu. Et en fait, Dieu ne l'abandonne pas complètement. Il lui fait passer comme un test. Dieu a fait cela pour voir l'état du cœur d'Ézéchias, ce qu'il avait à l'intérieur. Dieu ne le tente pas, parce que Dieu ne tente pas. Il ne le trompe pas, mais il lui fait passer un test. Et ça me fait penser un peu comme quand on est étudiant, quand on fait des études, qu'on doit apprendre des multitudes de choses, et après arrive le moment de l'examen. Là, on n'a plus les livres, on n'a plus les cours, on n'a plus les profs, on n'a que notre mémoire. Et on passe ce test pour voir si on a vraiment bien compris, pour voir ce qui reste, en fait, dans notre mémoire. Mais là, Dieu fait passer comme un test. Dieu a laissé faire Ézéchias. Dieu l'a mis à l'épreuve pour dévoiler sa véritable personnalité. Dieu permet cela pour mettre en lumière, afin de prendre conscience des imperfections. Et j'ouvre juste une petite parenthèse, cette histoire du roi Ézéchias, l'abandon de Dieu, ça fait partie d'un plan divin, du plan divin, de la déportation du peuple d'Israël. Plus de 1000 ans auparavant, il en est parlé dans les Lévitiques et dans les Deutéronomes, que l'exil constituait déjà la malédiction promise aux rebelles à cause de leur idolâtrie et du rejet des ordonnances instaurées par Dieu. Cela, dans le but de les ramener à Dieu. et de les libérer. De les ramener à Dieu et de les libérer. Tout est sous contrôle de Dieu. Et c'est rassurant. On apprend dans la suite de l'histoire du roi d'Ézéchias qu'Ésaïe vient l'avertir de la décision de Dieu. Et que tous ses biens, tout ce qu'il a pu emmagasiner, tout ce qu'il a pu gagner quelque part, sera emporté à Babylone et sera perdu. Ézéchias a été un roi fidèle et bon. Il a conduit le peuple à revenir à Dieu, mais le succès l'a rendu orgueilleux. Il a cherché peut-être à impressionner les visiteurs avec les bénédictions que Dieu lui avait accordées. Et son cœur n'était pas totalement reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Ok, cette histoire, elle est bien. Mais qu'est-ce que je peux en faire aujourd'hui? Comment je peux? Et je pense qu'il y a, trois raisons qui peuvent nous faire croire ou sentir que Dieu nous a abandonnés. La première, c'est on a volontairement choisi de ne pas obéir à Dieu. Et je vais vous confier quelque chose qui m'est arrivé. Je me suis fait baptiser à l'âge de 14 ans et 4 ans après, ça a été catastrophique pour moi. J'ai vécu des épreuves et en fait, j'ai lâché la main de Dieu volontairement, je suis partie. Mais vu que je vivais encore chez mes parents, mon père il m'a dit « Ma fille, tant que tu es sous mon toit, tu fais ce que je te dis. » C'est-à-dire que je veux que vous veniez au moins une fois par semaine à l'église. Pour certains, ça peut paraître dur, mais franchement, je bénis Dieu pour mes parents. Et donc, un dimanche matin, je vais entraînant les pieds à l'église, parce que mon père me l'a dit. Et je me mets au fond de l'église pour que personne ne me voie. Bon, c'était une petite église, donc on me voyait, mais bon. Et à un moment, bien sûr, pendant le culte, pendant que les personnes louaient Dieu, priaient, moi, j'étais là, assis sur ma chaise, et je pensais à mon avenir et à ce que j'aimerais faire et tout ça. Et puis d'un coup, une dame donne une parole comme Anita a fait ce matin et elle dit « Dieu est d'accord pour ses projets, mais avant tout, reviens vers Dieu. » Ah ouais, amen. Moi, j'ai pas dit amen. Et je vous assure, c'est pas avec fierté que je vous l'ai dit, mais vraiment pour que ça reste impacté dans vos cœurs. J'ai dit « Seigneur, moi, je veux pas revenir vers toi. » Tu te rappelles ce qui s'est passé là ces dernières années? Tu te rappelles ce que j'ai vécu? Tu te rappelles ce que j'ai perdu? Je suis pas d'accord, je veux pas revenir parce que tu m'as pas accordé ce que je voulais. Tu as pas été là, moi je me suis sentie toute seule. Mais après le fait d'avoir refusé, j'en ai payé les conséquences. Et soit donc, on peut sentir qu'on est abandonné parce qu'on a, pas obéi à la parole de Dieu. Mais ça peut être aussi quand dès le départ, tout simplement, on ne veut pas de Dieu. Avant même d'être croyant ou quoi, ou quand on entend parler de Dieu, souvent on entend qu'il dit « Ah si, il y avait un Dieu ». Mais oui, il y a un Dieu. S'il y avait un Dieu, il ne nous abandonnerait pas. Mais il faut réaliser que Dieu a tout accompli quand même. Et je vais le faire vite fait. Dieu a créé la terre. Avant de nous accueillir, il nous a accueillis pour qu'on soit en communion tout le temps avec lui. La désobéissance est arrivée, il y a eu séparation, mais Dieu ne nous a pas abandonnés, puisque vu cette séparation que nous, on a créé, être humain, il a envoyé son seul fils unique être crucifié à la croix pour que ce lien soit ressoudé. Alors si vraiment Dieu nous avait abandonnés, il n'aurait pas envoyé son fils sur la croix. Il aurait dit « débrouille-toi ». Mais il n'a pas abandonné. Mais le truc, c'est que Dieu ne s'impose pas. Dieu ne s'impose pas. Je ne sais pas comment aller la porte d'entrée de chez vous, de votre maison, votre appartement. Mais moi, je n'ai pas les poignées des deux côtés. Enfin, la poignée. Enfin, j'ai juste un rond à l'extérieur. Ce qui fait que si je sors sans mes clés, que je claque la porte, je suis foutue. Imaginez, en fait, la porte de votre cœur. La poignée, elle est à l'intérieur. Il n'y a que vous qui pouvez l'ouvrir. Et si vous n'acceptez pas Dieu, c'est sûr que vous vous sentez abandonné par Dieu. Si vous n'acceptez pas sa parole, c'est sûr que vous pensez qu'il vous abandonne, mais non, c'est vous qui avez la poignée de votre côté. Apocalypse 3:20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai chez lui et lui avec moi. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'abandon. La deuxième possibilité, c'est que on ne communique pas avec Dieu. On n'a pas de relation avec Dieu. Et quand on accepte de faire rentrer quelqu'un dans notre vie, ben normalement, on apprend à le connaître. Je ne sais pas vous ? Ouais, d'accord. Et on partage des temps ensemble. On essaie de faire des choses ensemble. D'apprendre l'un de l'autre. C'est un échange. Dans une communication, il y a un émetteur et un récepteur. Donc, quelqu'un qui émet, quelqu'un qui réceptionne. Et dans toutes nos relations, qu'elles soient fraternelles, amicales ou amoureuses, on communique. Et j'ai appris une chose dans la relation, c'est que même si je ne suis pas d'accord, ce n'est pas pour autant que je dois couper la communication. Il y a une chose que j'ai horreur. En fait, c'est c'est pas quand je me bats ou quand je me dispute, mais quand je suis pas d'accord avec une personne et que des fois le ton peut monter, je n'aime pas qu'on coupe la communication parce que je me dis mais le problème il est pas résolu, ça va pas. Et j'ai appris ça d'une amie inconvertie. Une fois, elle n'était pas d'accord avec moi et tout ça, et je croyais qu'elle était fâchée qu'on se parlait plus. Et du coup, je m'en vais. Elle me dit qu'est-ce que tu fais ? Je dis bah c'est bon, je rentre chez moi. Elle dit non, attends, je t'explique. C'est pas parce que je suis pas d'accord que ça va s'arrêter là. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec Dieu, et j'ai même envie de dire, c'est pas parce qu'à un moment on a chuté, on s'est trompé, qu'on doit arrêter la communication avec Dieu. Et je disais encore aux jeunes hier, surtout, une chose, n'arrêtez pas de parler à Dieu, n'arrêtez pas de l'écouter, n'arrêtez pas, parce que c'est ce que le diable cherche à faire. Et pour communiquer avec Dieu, eh bien, on lui parle, comme je vous parle, donc on prie. Il y a la parole, la Bible, où il nous a laissé un GPS pour la vie terrestre avant d'aller le rejoindre. On a des outils qui nous permettent de pouvoir communiquer avec Dieu. Il y a, quand vous venez le dimanche matin, les messages. Il y a même parfois les chants qui peuvent nous parler, nous communiquer de la bonté de Dieu. Alors, on peut croire qu'on est abandonné parce qu'on a volontairement décidé de ne pas lui obéir, parce que ben, tout simplement, on ne communique pas, ou sinon, parce que Dieu nous éprouve. Et on a vu au travers d'Ézéchias qu'à un moment, ben, Dieu l'a laissé faire. Dieu l'a laissé faire. En 2011, je suis partie au Burkina Faso pour faire un voyage humanitaire, c'était quelque chose que je voulais faire depuis toujours. Je rentre du Burkina Faso et en fait, je rentre avec des amis dans mon corps. Je rentre avec un parasite. Et le problème, c'est qu'on a mis 6 mois, je crois, à le découvrir. À la fin, les médecins m'ont dit « Madame, c'est dans votre tête ». Mais pourtant, je voyais que je maigrissais, que je mangeais plus, qu'il n'y avait plus rien qui rentrait, enfin bref. Et à un moment, j'appelle mon père, je dis « Papa, écoute, viens me chercher parce que je crois que là, c'est la fin ». Et donc il vient me chercher, il n'a pas dormi de la nuit, je crois qu'il a fait les rondes toutes les 5 minutes pour venir voir si je respire encore. Et pendant ces temps, je passais du temps quand même avec Dieu. Et j'étais dans sa présence et un jour je lis Job 36:15 qui dit « Mais Dieu délivre l'affligé par son affliction même. Et c'est par la souffrance qu'il dispose à l'écouter. » Version Semeur. Et moi j'étais convaincue que Dieu pouvait me guérir là, instantanément. J'étais convaincue, je dis « Seigneur, tu vas me guérir. » Et je tombe sur ce verset. Et je me suis dit, mais c'est vrai que si je n'avais pas eu ça, est-ce que j'aurais réellement plié encore plus le genou ? Est-ce que je me serais encore rapprochée encore plus de Dieu ? Je ne sais pas. Jacques 1:3 dit, vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rendra plus résistante. En fait, Dieu permet. Et ce matin encore, je lisais dans Jérémie 22 comme quoi c'était Dieu qui éprouvait le cœur et les reins, qui était là pour nous sonder, pour voir si tout était bon. En fait, les épreuves, elles nous sont utiles, car elles ont pour but de nous faire grandir et de progresser. Elle nous prépare peut-être à des événements qui seront peut-être un peu plus compliqués par la suite. Quelque part, elle nous équipe. Ce qui est dingue, c'est que Dieu met tout en œuvre, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu met tout en œuvre, même les circonstances, même qui parfois, nous, on peut dire, non, mais Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne m'abandonne pas. Ce n'est pas possible. Il faut croire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Et tout à l'heure, elle en parlait, Anita, ne laisse pas les pensées croire le contraire. Je vais le relire encore, le verset de Hébreux 13:5 qui dit « Car Dieu lui-même a dit, Dieu le Père céleste, Dieu le Créateur tout-puissant, le Dieu de l'impossible, le Dieu de l'infini, t'a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Alors si Dieu le dit, ben c'est que c'est vrai. Amen. J'ai envie de te dire, écris-le. Écris-le sur le frigo, écris-le sur ton front, apprends-le par cœur, mais garde-le sur ton cœur et surtout, ne laisse personne et qui que ce soit dire que Dieu t'a abandonné parce que ce n'est pas vrai. Parce que même si tu aurais été le seul être humain sur la terre à ne pas être sauvé, il aurait quand même envoyé son Fils unique pour que tu sois sauvé et pour que tu aies accès à la vie éternelle. Je demandais à Naomi, tu peux monter s'il te plaît ? Juste un exemple pratico-pratique. Je ne sais pas si vous voyez tous, j'ai un bouchon. J'ai un petit bouchon. Alors, on va se mettre là. Est-ce que là, vous nous voyez à peu près, c'est bon ? Je prends le bouchon dans ma main, je le mets dans ma main. Essaie d'ouvrir ma main. Essaie de l'ouvrir, force un peu plus quand même. Je n'ai pas pris un homme, hein, quand même. Bon, elle n'y arrive pas. Vas-y, merci beaucoup. Elle n'y arrive pas, pourquoi ? Il y a un verset qui dit que quand on est dans la main de Dieu, on est en sécurité. L'abandon, vous savez ce que c'est ? C'est ça. Et je vous assure que Dieu, il ne l'a pas fait ça. Et il ne le fera jamais. Je vais ramasser le bouchon quand même. On peut penser que, mais ce n'est pas la vérité, parce que toute sa parole nous dit que Dieu est là. Et même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu est omniprésent. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. L'histoire d'Ézéchias nous a permis de voir que Dieu laisse faire par moments. Oui, il peut, comme le bouchon, là il est dans la main, de temps en temps ouvrir un peu la main et dire « Bon, ben, je permets certaines choses parce que je veux te voir grandir. Parce que je ne veux pas que tu restes un enfant spirituel. Parce que je veux que tu m'aimes. Je veux qu'il y ait cette relation entre toi et moi. » Je veux qu'il y ait cette unité entre son père et son enfant. Mais il ne t'abandonne pas. Et ce qu'a vécu Ézéchias, ça a permis de voir l'état de son cœur, la réalité intérieure. Prenons garde de ne pas nous glorifier des choses que Dieu nous a données. Quand nous parlons des choses que Dieu a faites pour nous, est-ce pour attirer l'attention sur nous ? Est-ce pour dire « moi, je suis meilleur ?» Moi, ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Quand Dieu nous accorde des bénédictions, ne les utilisons pas pour impressionner. Et surtout, ne transformons pas une bénédiction divine, bénéfique, en une occasion de chute et de péché. Soyons toujours reconnaissants de ses bontés envers nous, mais surtout, soyons reconnaissants d'avoir la vie éternelle. Amen. Je sais qu'il y a des épreuves qui sont plus dures que d'autres. Je sais qu'il y a des moments où on a vraiment l'impression d'être abandonné. Il y a ma petite sœur en ce moment, elle avait un passage où elle dit dans le désert, où je vous avais raconté que ma sœur elle avait du succès et tout ça. Ben là, en ce moment, c'est plus trop le succès. Elle n'a pas de travail. Elle a échoué à son mémoire. Elle a rendu son appartement, elle est retournée chez mes parents, elle a 35 ans et tout ça, et elle se dit, mais c'est... Et il y a une phrase qui m'a marquée de ce qu'elle dit. Elle disait, tu sais ma sœur, je lâcherai pas le Seigneur. J'ai rien, mais j'ai tout parce que j'ai Dieu. Et c'est juste ça, Dieu ne l'a pas abandonnée, mais Dieu peut-être pendant ces temps de désert est en train de la renforcer spirituellement. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est vous renforcer spirituellement. C'est pour tenir ferme face au diable. C'est pour lui résister et qu'il ne revienne plus jamais. Amen.